Pas de répit pour pas de répio. Aujourd'hui, épisode 1, Pio aux voix rouges. Troisième partie.
Il doit faire nuit. Sinon, la bibliothèque du couvent où je me trouve ne résonnerait pas du silence qui y règne actuellement. Cela devait bien faire plusieurs heures que j'y consultais des journaux. Les plus récentes éditions, de janvier et février de cette année 1921, rapportaient les nouvelles du congrès de Livourne. Je tentais d'en savoir plus sur le parti des socialistes, que l'on devait appeler communiste désormais, mais aussi plus largement sur les mouvements ouvriers, leurs revendications, leurs ennemis. J'entreprenais de telles recherches dans le but de comprendre les tensions et les dissensions qui règnent actuellement dans l'usine Alfa Romeo de Portello près de Milan, suite au meurtre de son directeur, ce pauvre Ferruccio Monfrotto, paix à son âme, retrouvé poignardé dans son fauteuil. Hier, le représentant syndical Francesco Benaglia a subi le même sort dans son atelier de travail à l'usine. Peut-être était-il la cible de mon mystérieux assaillant de la rusée Cavecchia, qui me laissa sur le carreau la nuit dernière et me fit perdre la filature des notables milanais, étonnamment proches de l'ouvrier Benaglia, paix à son âme. Je refermais les journaux. Socialisme ou communisme, léninisme marxiste ou non, motion de censure et scission, j'avais besoin d'une pause. Qu'en disait notre église? Je consultais le Rerum Novarum, une lettre publiée par notre cher pape Léon XIII il y a 30 années de cela. Il disait alors, « Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent point traiter l'ouvrier en esclave. Il est juste qu'ils respectent en lui la dignité de l'homme, relevée encore par celle du chrétien. » Plus loin, l'encyclique de Léon nous dit aussi que la propriété est un droit naturel de l'homme, afin qu'il protège sa famille du besoin. Et il ajoute que le travailleur doit respecter son patron, ainsi que le capital. L'ouvrier peut s'organiser avec ses collègues, mais en aucun cas user de la violence. J'attends la proximité des idées de notre pape et de l'idéologie de Francesco. Je m'étais moqué de son accent du Nord et de sa haute estime de lui-même. Pire, je commençais à le considérer comme suspect principal dans le meurtre du directeur. Des années durant, il avait rassemblé ses camarades autour de thèses modérées pour que ce Manfrotto ne signe finalement un accord avec les révolutionnaires. Aujourd'hui, cette piste ne tenait plus. Adamo Tarisi allait certainement être libéré. Son fils Tommasino, qui était venu me chercher dans mon petit couvent du sud de l'Italie, devait être à présent rentré. Je devais moi aussi retourner à Milan, partir à la recherche de l'homme qui m'avait renversé, couteau à la main, prêt à en découdre avec les hommes du palais Castagne. La place était déserte. Adossé à la grande porte de l'église, je fixais le bâtiment du modeste palais Castagne qui me faisait face. Le porche de San Sepolcro me protégeait de la pluie qui battait, mais je sentais le vent froid de cette fin d'hiver milanais traverser ma bure, plus adaptée au soleil des Pouilles. Le palais Castagne n'a de palais que le nom. Sa façade n'offre aux yeux que de monotones ouvertures vitrées, à l'exception d'un petit balcon décentré qui donne sur l'extrémité est de la place, comme si ses habitués ne souhaitaient parler qu'au balcon de la Via Valpetrosa, qui entamait là son parcours sinueux. Je voyais une faible lumière éclairer une pièce du deuxième étage, et me vint alors une idée. Je traversai la place d'un pas pressé, tentant éperdument d'échapper aux trombes d'eau qui se déversaient sur les pavés. Ma main fit pression sur la lourde porte qui s'ouvrit. J'en fus le premier surpris. J'avançai dans le couloir d'entrée. Les murs de pierre étaient nus, à l'exception d'une affiche vantant le mérite d'un soldat au regard fier et frondeur, barré de la mention Fasci Italiani di Combattimento. Avançant discrètement dans les salons du rez-de-chaussée, je trouvais de nouvelles affiches annonçant des congrès nationaux à Florence et ici à Milan. Les bureaux étaient recouverts d'éditions d'Il Popolo d'Italia, ce journal que nous commencions à peine à recevoir quotidiennement au couvent, mais que je ne lisais pas encore. Je trouvais également des recueils de poésie, des essais révolutionnaires communistes, des cartes du royaume et des plans de Rome. De nombreux feuillets étaient épinglés sur des tableaux en bois, des variations sur un même thème. Il nostro movimento è stato coronato dalla vittoria. Les hommes ici semblaient chercher le mot juste, celui qui rassemblerait les foules derrière eux. Je sais la peine que cause cette tâche, ayant à de nombreuses reprises été torturé par la page blanche qui attend que l'on y couche un serment. Je remuais quelques autres documents avant de décider de me retirer, l'esprit coupable et terrorisé à l'idée d'être surpris. Les ouvriers de l'usine n'avaient pas questionné ma présence dans leurs locaux deux jours auparavant, mais l'ambiance militaire du palais me fit imaginer qu'il n'en serait pas de même ici, dussé-je être surpris en train de fouiller. Je traversai la place en sens inverse, oubliant un instant mes découvertes illicites, ne pensant qu'à un moyen efficace de me sécher et de me réchauffer près de l'autel de l'église. Je ne me rendis pas compte que, sous le porche que j'avais abandonné un instant plus tôt, se tenait une silhouette qui ne tarda pas à me héler.
Buonasera, padre.
Tommasino, que faites-vous ici?
Je suis rentré à Milan par le train du soir comme vous me l'avez demandé. Je suis rentré à la maison. Mon père est toujours emprisonné. Ma mère m'a accueilli froidement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle m'a raconté qu'il y avait du nouveau à l'usine.
Eh bien ça, je crois qu'on peut le dire. Tommasino, il faut que...
Vous imaginez ma surprise quand elle m'a raconté qu'un étrange curé à l'accent du sud et portant des mitaines noires était venu poser des questions à l'atelier.
Oh, ça...
Vous me devez une explication, padre. Après notre entretien au couvent, je suis rentré chez mon oncle et ma tante. Après le dîner, je me suis pressé, sur vos conseils, de rassembler mes affaires et de faire ma valise. Le lendemain matin, j'ai pris le train pour Rome, où je fis escale quelques heures avant de repartir pour Milan. Il m'aurait été presque impossible de me presser davantage, et dans tous les cas, d'arriver plus tôt. Alors, comment avez-vous fait, mon père? Car c'était bien vous dans l'usine, n'est-ce pas?
Ce n'était pas la première fois que cette question m'était adressée. Jamais il ne m'a été facile d'y répondre. Régulièrement, des fidèles racontent à qui veut bien l'entendre que l'on me voit aux quatre coins du royaume d'Italie, alors que ce bon vieil Anastase ne cesse de poser son regard inquiet sur ma frêle carcasse en toute occasion, dans le cœur de l'église, dans le jardin du couvent, dans le réfectoire où nous mangeons. Il y a 15 ans, alors qu'Anastase et moi étions justement dans le cœur de Sainte-Marie-des-Grâces, je me suis soudainement retrouvé dans la demeure d'une famille noble d'Oudinèse. Un homme mourait dans une chambre, tandis que sa femme accouchait dans la pièce voisine. J'aidais la pauvre âme à mettre au monde sa fille, comme me le demanda ce soir-là la Sainte Vierge. Les deux femmes saines et sauves, et le mari raccompagné auprès de Saint-Pierre. Je me demandais alors le pourquoi et le comment de cette expérience, quand je fus réveillé par un coup de coude bien senti de mon compère Anastasio.
Eh bien, on fatigue, mon jeune frère? On s'endort pendant la prière? Vous voulez me faire le plaisir de demander pardon à notre Sainte Vierge? Priez avec moi. Ave Maria, piena di gratia.
Sacré Anastasio. S'il avait su, s'il savait. Les témoignages des fidèles lui parviennent aux oreilles, et il ne cesse de me charrier sur le sujet.
Tu sauras que l'on t'a vu récemment en Rome, dans la boutique d'un chapelier qui a perdu sa femme de la pelagre, et qu'on t'a même senti sur les falaises dominant Capri et la baie de Naples. De plus en plus fort, j'ai hâte de confesser le pauvre qui t'aura entendu chanter la tarentelle au Mexique.
Je repensais à Saint Antoine. Décidément, le saint patron des choses oubliées se manifestait de plus en plus fréquemment dans mon esprit. Lui aussi était réputé pour sa capacité à être en deux lieux simultanément. On le vit le même jour dans sa belle ville de Padoue, tout occupé à sa piété, et à Lisbonne où il prêchait pour que son père biologique obtienne les bonnes grâces du tribunal local. Bien des siècles plus tard, on parle encore de ce don et on discute du pourquoi et du comment. Alors que je croyais la question de la vie après la mort réglée depuis longtemps, je fus saisi par l'idée de ma postérité séculaire. Mais fort heureusement, Tomasino dissipa ma torpeur.
Je vois. Il faut donc admettre que les voix de Padre et Pio sont elles aussi impénétrables. C'est injuste, vous savez. Je considère que vous me devez toujours une explication, mais j'imagine que cela attendra.
Qu'avez-vous de si urgent à faire ?
Padre, pardonnez-moi parce que j'ai péché.
Camarade ! Camarade ! Un peu d'attention, je vous prie. Je vous promets que je serai bref. Bien. En votre nom à tous, au nom du Parti communiste révolutionnaire italien, que nous avons souhaité de nos voeux ces dernières années, et qui, quelques jours seulement après sa création, semble déjà promis à un avenir radieux, placé sous la protection de Lénine, Boukharine et Zinoviev. Où en étais-je ? Oui, oui, chers camarades, je vous prie de bien vouloir lever vos verres pour saluer le retour du premier martyr du parti, un valeureux ouvrier, un ami de tous. Et vous vous souvenez des assemblées des derniers ? Un modèle de probité et d'intégrité, prompt à faire passer les idées du parti avant sa propre descendance. Mes chers amis, il y a 3 ans, nous avons manifesté contre l'emprisonnement arbitraire du secrétaire général du parti, j'ai nommé le camarade Constantino Lazzari. Je vous présente notre nouveau héros, lui aussi jeté arbitrairement en prison par les tyrans du patronat, qui, je vous le promets, seront bientôt renversés. Tout ça pour dire, camarade Adamo Tarissi, bienvenue chez toi, Adamo Tarissi. Mais avant de te donner la parole, de te laisser dire quelques mots, permettez-moi tous, chers camarades, de féliciter tous les camarades qui ont organisé cette petite réception. Car nous sommes tous des martyrs, au fond, autant que toi, camarade Adam. Nous qui, par de minutieuses actions, faisons vivre le parti en mettant à la disposition de la collectivité nos olives et notre vin, notre temps et notre parole. Alors, Adamo, à notre santé, à la santé du parti, car nous sommes tous égaux, et donc nous étions tous en prison avec toi, tu le sais. Et tu étais avec nous dans les bureaux du syndicat pendant ces 15 jours et 15 nuits où nous avons, dans l'atelier, comblé ton absence sur la ligne d'assemblage et travaillé de plus belle. Tandis que tu rêvais, je l'imagine, à la révolution socialiste depuis ta cellule de prison de...
Regardez-les tous, ces traîtres, ces lâches, ces pourritures révolutionnaires. Vous allez en goûter de la révolution. Elle va tomber de mes propres phalanges, la révolution. Vous l'avez tué. Vous avez tué Francesco, comme vous avez tué le patron. Vous l'avez tué, vous chantez. Assassin. Si ce n'est pas toi, Adamo, c'est sûrement toi, Beppo. Ou un autre parmi vous.
Mais faites-la sortir, c'est hystérique.
C'est ça, vous êtes des vauriens en plus d'assassins. Il n'y a que vous qui avez le droit à la parole, et encore. On n'entend que toi, Beppo. Toi, toi, et encore toi. Tu finiras par la faire tout seul, ta révolution. Tu m'entends ? Ils ont mis Adamo en prison. Tu as crié dans toute l'usine que Francesco était l'assassin du directeur, et tes hommes l'ont tué. Ils se sont comportés comme une meute et ils l'ont tué. Allez, vous avez gagné, allez-y. Hissez-le sur le toit de l'usine, votre drapeau rouge, orné du marteau et de la charrue. Mais n'oubliez pas d'y ajouter le poignard.
Mon jeune ami, je comprends votre tourment. Vous avez été pressé de quitter Milan suite aux événements de l'usine. Vous avez décidé de prendre refuge loin de la Lombardie, vous réfugiant quelques jours chez votre tante et votre oncle. Voyant votre esprit agité, incapable de trouver le repos que le soleil dépouille impose pourtant à ceux qui vaquent sous son autorité, votre chère tante vous a conseillé de me rencontrer. pour rassurer cette femme aimante et dissiper tout potentiel soupçon, vous êtes venu me voir et vous m'avez demandé assistance, persuadé au fond que je ne m'occuperai pas des affaires du nord du royaume. Et désormais, me voici et vous voilà fort peu à votre aise. Et j'imagine que cela explique pourquoi vous m'avez bousculé hier soir et laissé à mon inconscience dans la rue voisine à cette place. Car ne croyez pas que j'ai déjà oublié l'incident. Mon corps en garde encore la trace. Certes, il conserve de plus nobles stigmates, mais votre assaut restera marqué dans ma chair quelque temps encore. Et ne cherchez pas à accuser un autre que vous cette fois-ci. Vous étiez cette silhouette si brumeuse et pourtant si brutale au contact. Et sous ce porche mal éclairé, où nous nous trouverons maintenant, toute votre figure dessine le même contour que celui de la nuit passée, qui s'est imprimé devant mes yeux comme le corps du Christ sur son linceul. C'est parce que vous m'avez reconnu, gisant au sol, que vous avez pu me retrouver ce soir, sachant où je logeais. Et moi qui étais venu avec les meilleures intentions à votre égard. Alors Tomasino, faites donc. Confessez-vous ici même, devant cette noble église, et nous verrons ensuite si la justice des hommes vous pardonne vos péchés.
Et qu'aurais-je encore à confesser? Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Est-ce cela la confession catholique? Se présenter devant un curé et attendre qu'il égrène à votre place nos méfaits et nos regrets?
Comment ça? C'est tout?
Eh bien oui, c'est tout. Que voulez-vous de plus?
Eh bien, tout. Enfin... tout le reste.
Attendez, attendez voir. Vous me croyez coupable du meurtre du directeur de l'usine?
Vous courez les rues de Milan la nuit, à la lueur des réverbères, armé de votre couteau, poursuivant sans autre but que la vengeance les notables du coin, ruant dans les brancards et dans ceux qui ne les occupent pas encore.
Mon couteau? Oui, madame, je l'ai perdu hier soir. Je dois à tout prix la retrouver, padre, et vous verrez. Vous verrez que ce n'est pas celle d'un soldat bassaliero, comme celle qui a tué le directeur. Un vulgaire couteau de cuisine.
Et Francesco?
Quoi, Francesco? C'est à cause de lui que mon père est en prison. C'est lui qui l'a dénoncé. Vous l'apprenez? Alors, oui, je l'avoue. Oui, oui, je l'ai suivi hier soir. Je voulais ma vengeance. De Naples à Rome, de Rome à Milan, j'ai réfléchi à la meilleure façon de m'en débarrasser. En descendant du train, je suis passé à la maison. J'ai dîné avec ma maman. Et quand la nuit fut tombée, je me suis précipité ici même au palais Castagni pour m'assurer de sa présence aux réunions des fascistes de la ville. Et alors, je l'ai vu. Je l'ai vu par la fenêtre du premier étage. Il passait et repassait comme s'il me narguait. Il était libre de circuler dans un beau salon alors que mon pauvre père dormait injustement sous les verrous. Les lumières se sont éteintes. Je me suis caché dans une rue, non loin de là, prêt à bondir sur lui. Je voulais que ses amis le voient, qu'ils aient peur, qu'ils avouent tout. Je n'y quittais pas les yeux. Je profitais du moindre éclat de voix pour courir et maintenir une distance acceptable entre le groupe et moi. C'est ainsi que je vous ai percuté. Je ne pouvais pas savoir que nous étions deux à les filer. Bref, j'étais déterminé. J'avais une mission à remplir. Alors je vous ai laissé là, sur le carreau. Le groupe s'est ensuite séparé. Francesco allait être seul, et j'ai su que l'heure était venue d'agir. Je portais ma main à ma ceinture en voulant me saisir du poignard, et je constatais son absence. Alors, je me suis effondré. J'ai fondu en larmes et je suis resté là, sous un réverbère, pendant de longues minutes. Puis je suis rentré à la maison et je n'ai pas quitté ma chambre, pas même pour le déjeuner.
Mon fils, Francesco est mort.
Quoi ?
Transpercé d'une lame semblable à celle qui fut fatale au directeur de l'usine. Tomasino, mon fils... j'ai besoin de connaître la vérité.